Je vais maintenant parler de la façon dont la recherche publique aide l'industrie privée, ou plutôt de la façon dont l'industrie privée pille la recherche publique. Les industriels déclarent que la recherche et le développement, c'est 20% de leurs dépenses et que c'est donc beaucoup d'argent. Cette proportion est en réalité équivalente à celle consacrée à la recherche dans d'autres secteurs industriels, comme l'aéronautique par exemple. Et surtout, ils oublient de préciser qu'une grande partie des dépenses de recherche est supportée par la collectivité. Les États-Unis, où pourtant l'initiative privée est sans cesse valorisée, ont été les premiers à réaliser des investissements publics massifs dans la santé. C'est ainsi qu'en 1971, Nixon a fait voter une loi fédérale pour lancer un plan cancer. Tout comme Kennedy avait lancé les Américains à la conquête de la Lune, lui les conduirait à vaincre le cancer. Les sommes investies ont été énormes. L'Institut américain du cancer a reçu en 1971 un premier budget de 9 milliards de dollars en valeur actuelle. Pendant près de 50 ans, cet institut a bénéficié chaque année de 15 à 20% des sommes que l'État américain consacre au financement de la recherche publique en santé. Les résultats des recherches menées grâce à ces immenses financements ont permis d'importantes avancées scientifiques et thérapeutiques et de faire reculer la mortalité par cancer, même si évidemment il n'est pas vaincu. En matière médicale, même pour un président des États-Unis, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Partout, les pouvoirs publics sont les seuls à financer la recherche fondamentale, celle qui permet l'acquisition de nouvelles connaissances ouvertes à tous. Les industriels viennent ensuite y puiser les résultats dont ils ont besoin pour effectuer la toute dernière partie du parcours, celle qui est orientée vers le développement d'un produit et d'un profit. L'exemple des traitements dits biotechnologiques, qui représentent aujourd'hui plus de 50% des nouveaux produits mis sur le marché, à des prix exorbitants, on l'a vu, est de ce point de vue tout à fait parlant. Ces médicaments n'auraient jamais vu le jour sans toutes les découvertes sur l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, récompensé par de nombreux prix Nobel et distribué à des chercheurs du public depuis trois quarts de siècle. La structure de l'ADN a été identifiée dans les années 1950, le fonctionnement des gènes dans la décennie suivante. La manipulation des virus et des cellules date des années 1980. Le déchiffrage entier du génome humain a été réalisé 10 ans plus tard. Puis sont apparues les cellules souches, les ciseaux à ADN et une constellation d'autres découvertes qui font la une des journaux plusieurs fois par an. Absolument aucun de ces travaux de recherche fondamentale n'a été financé par l'industrie pharmaceutique. Ce qui ne l'empêche pas d'utiliser aujourd'hui ces technologies dans des produits qu'elle vend très cher, tels les nouveaux traitements d'immunothérapie cellulaire anticancéreuse, la thérapie génique et bien d'autres encore. Ce que l'on appelle la communauté scientifique n'est certes pas exempte de petits intérêts mesquins et de compétition, mais l'objectif de l'activité de recherche publique est l'acquisition de nouvelles connaissances ouvertes à tous et partagées avec l'ensemble des chercheurs au travers de publications scientifiques. Par exemple, les résultats du déchiffrage du génome humain n'ont jamais été brevetés. Ce déchiffrage a été réalisé grâce à un effort international qui a coûté 3 milliards de dollars de fonds publics sur une période de près de 10 ans. Son résultat a été la constitution d'immenses bases de données permettant à tout scientifique de connaître gratuitement la séquence d'ADN précise d'un gène. Pas un biologiste, qu'il appartienne au public ou au privé, ne peut aujourd'hui travailler sans se référer à ces données et à toutes celles recueillies depuis grâce à cette base de départ. Les industriels qui en font leur beurre aujourd'hui s'approprient les bénéfices d'un effort collectif auquel ils n'ont tout simplement jamais contribué. Cela ne les empêche pas de se plaindre sur ce que leur coûterait la recherche, ce qu'ils appellent le prix de l'innovation, et sur les risques quasi insupportables qu'ils prennent tous les jours. C'est de bonne guerre pour réclamer de nouvelles aides aux pouvoirs publics et des prix élevés pour leurs médicaments. Mais en réalité, même ce risque n'est plus supporté par les grandes entreprises qui l'ont largement externalisé. Depuis 20 ou 30 ans, elles ont réduit leur budget et fermé et vendu bon nombre de leurs centres de recherche, notamment en Europe et aux États-Unis. Ainsi, en 2009, Sanofi a engagé un plan de restructuration qui a conduit à stopper 40% des programmes de recherche en cours. D'autres plans ont suivi en 2012, 2014, 2017, avec à chaque fois de nouvelles suppressions d'emplois. Aujourd'hui, le centre de recherche de Montpellier, dont certains locaux flambant neufs n'ont jamais été utilisés, est fermé. Celui de Toulouse a été vendu. Et celui de Lyon est en passe de l'être. Les industriels de la pharmacie n'ont pourtant pas l'intention de tuer leur poule aux œufs d'or en renonçant à mettre sur le marché de nouveaux médicaments. Ils ont juste décidé de faire nourrir les poules par d'autres qui prennent les risques et ensuite de récupérer les œufs. Et ce qu'ils nomment une externalisation de la recherche et développement s'appuie sur une myriade de petites entreprises de biotechnologie, on les appelle les biotech. Les premières sont apparues dans les années 1980 et elles sont aujourd'hui des dizaines de milliers à l'échelle mondiale. Chacune de ces biotech a été créée à l'origine autour d'un scientifique et d'une de ses découvertes. Des investisseurs, sentant qu'il pourrait y avoir là une bonne affaire, lui ont apporté quelques fonds qui lui ont permis de mettre en place une petite équipe et un laboratoire. Ces financiers, on les appelle des capitaux risqueurs, pour bien indiquer qu'ils font un pari et qu'ils ne sont pas là pour financer l'entreprise dans la durée. Et de fait, ils investissent uniquement si le chercheur les convainc qu'il obtiendra dans un temps très court des résultats vendables sous la forme de brevets. Dans la grande majorité des cas, puisque c'est très risqué, ça rate et la biotech disparaît. Mais les capitaux risqueurs s'en moquent parce qu'ils jouent en même temps sur un grand nombre de ces biotech. Ils misent sur une réussite de 1 sur 10 en escomptant revendre la pépite, c'est le terme consacré, entre 15 et 30 fois l'investissement. Ce qui arrive aux 9 équipes sur 10 qui restent sur le carreau n'est évidemment pas leur problème. La biotech la plus chanceuse peut tenter de se développer en recourant à la bourse. Le fameux Nasdaq, cette bourse des entreprises de technologie à New York, draine ainsi vers le financement des biotech les économies de millions de petits et grands bourgeois. Ils spéculent sur des entreprises qui n'ont en général rien produit d'autre que des résultats scientifiques et des brevets, bref, du rêve. La fin de l'aventure se situe au moment où des malades reçoivent le médicament lors d'un essai clinique. Si c'est un échec, la biotech que la bourse valorisait la veille à plusieurs centaines de millions de dollars peut disparaître en une nuit. Si c'est un succès, elle peut tout à coup décupler la mise et valoir quelques milliards. À ce moment-là seulement, une fois l'essentiel des risques pris, il n'y a plus qu'à ramasser les fruits presque mûrs. Une grosse entreprise pharmaceutique peut alors racheter la biotech prometteuse. Et encore une fois pour parler de Sanofi, en 2011, Sanofi a racheté une biotech américaine, Genzym, pour 16,5 milliards d'euros. Et l'an dernier, en 2018, Sanofi s'est déjà payé deux biotech très spécialisées pour un total de près de 14 milliards d'euros. Les capitaux de l'industrie pharmaceutique sont drainés vers la finance. Pendant ce temps, les sommes consacrées aux investissements productifs reculent sans cesse. Des usines sont fermées ou vendues. Des installations sont usées jusqu'à la corde. Des travailleurs sont licenciés. Pour en revenir toujours à Sanofi, en l'espace de 10 ans, entre 2008 et aujourd'hui, Sanofi a supprimé 5000 postes en France et a fermé ou s'est débarrassé de 15 entreprises. Il y a un mois encore, elle a annoncé un nouveau plan de suppression d'emplois, cette fois en utilisant la possibilité de rupture conventionnelle collective ouverte par les récentes lois travail. D'ici 2020, 670 travailleurs des fonctions support, informatique, ressources humaines vont perdre leur emploi. Et tous les grands groupes ont procédé et continuent de procéder de la même façon. Récemment, Novartis a annoncé la suppression de plus de 2000 emplois en Suisse et projette de faire passer ses effectifs mondiaux de 124 000 à 100 000 d'ici 2022. Et je vous ai parlé du rachat début janvier d'une biotech Celgene par Bristol Myers Squibb, BMS, pour 65 milliards d'euros. Eh bien, quelques jours auparavant, BMS finalisait la revente de son usine d'Agen dans le Lot-et-Garonne, où 1250 travailleurs fabriquent des médicaments classiques et pas très chers, comme le Dafalgan, l'Efferalgan ou l'aspirine UPSA. Mettre la main sur des biotechs en vue d'une valorisation boursière, tout en se débarrassant des usines de chimie où l'on produit de vieux médicaments, c'est la politique menée par les grands groupes aujourd'hui. Alors parlons justement de la production. Pour produire des médicaments, il faut d'abord fabriquer les principes actifs, ceux qui ont un effet thérapeutique. C'est ce qu'on appelle la production primaire. C'est un peu de la cuisine, mais avec des équipements lourds, des extracteurs, des réacteurs, des fermenteurs. Les ouvriers manipulent des produits toxiques, allergisants, voire cancérigènes. Ensuite, il faut mélanger les principes actifs à des excipients, du sucre, de l'amidon, des colorants, en leur donnant une forme particulière, par exemple une gélule, un sirop, une crème, un comprimé. C'est l'étape de l'assemblage, encore appelée production secondaire. Et ensuite, il y a toutes les étapes de conditionnement, la mise sous blister, en boîte, en flacon, l'insertion des notices et tous les contrôles de qualité aux différents stades de la production. Depuis une vingtaine d'années, les grandes entreprises pharmaceutiques ont largement externalisé la production. Une bonne partie de la production primaire, en tout cas celle qui concerne les médicaments issus de la chimie, est désormais souvent réalisée à l'étranger, particulièrement en Chine ou en Inde, où les grandes entreprises profitent d'une main-d'œuvre moins chère et de réglementations sanitaires plus souples. Et la production secondaire, encore souvent réalisée sur le territoire, est de plus en plus cédée à des sous-traitants. Dans le jargon pharmaceutique, comme dans celui de la mode vestimentaire, ces sous-traitants sont appelés des façonniers. Alors ces façonniers, Fareva, Famar, Delpharm ou d'autres, sont peu connus du grand public. Ils n'ont ni la taille des Big Pharma, ni leur richesse, mais ils ne sont pas à plaindre non plus. Ainsi, l'entreprise Delpharm emploie environ 3000 personnes dans 9 usines en France, et son patron, Sébastien Aguétan, est l'héritier du laboratoire lyonnais Aguétan, fondé au XIXe siècle. La particularité des façonniers, c'est de produire dans une même usine, parfois sur la même chaîne, des médicaments vendus sous des marques différentes et pour de nombreux clients, qui peuvent être les grandes firmes, les Big Pharma, mais aussi des fabricants de génériques ou encore des entreprises de cosmétiques, de produits vétérinaires ou de compléments alimentaires. Je vais prendre l'exemple de l'usine Famar de Saint-Genis-Laval à côté de Lyon. On y produit différents médicaments, comme l'Advil, un anti-inflammatoire commercialisé par Pfizer, ou le Roquen, un antibiotique vendu par Sanofi. L'usine de Saint-Genis-Laval appartenait au groupe Sanofi. Il s'appelait alors Sanofi Aventis, qui l'a cédé en 2004 à Famar. Or, non seulement Famar n'eut rien à débourser, 2 euros symboliques, mais au contraire, il bénéficia d'une enveloppe pour ses investissements, d'un chiffre d'affaires garanti pendant 2 ans, et puis d'un portefeuille de produits Sanofi jusqu'à la fin 2011. L'entreprise Famar appartenait jusqu'à peu à une famille grecque, la famille Marinopoulos, qui, avant de se lancer dans la pharmacie et d'acquérir plusieurs usines en Europe, était surtout connue pour être propriétaire d'une chaîne de supermarchés en Grèce. Depuis l'achat en 2004, quasiment aucun investissement n'a été réalisé dans l'usine. Ces dernières années, la famille Marinopoulos, connaissant des difficultés en Grèce, a allègrement pompé les finances du groupe en prélevant des dividendes et en ponctionnant de l'argent pour acheter diverses sociétés, plus ou moins bidons, en particulier dans l'immobilier. Depuis 2013, elle ne paye plus régulièrement ses fournisseurs, ce qui entraîne des retards dans la production et dans les livraisons. Une fois, c'est le sucre nécessaire à l'enrobage des comprimés qui manque. Une autre fois, c'est l'encre pour imprimer les notices. Il y a quelques mois, les usines Famar ont été revendues à un fonds d'investissement grec, Pillarstone, qui risque fort de continuer la curée. Alors, le mode de production capitaliste a un fonctionnement général aberrant, qui entraîne des conséquences graves dans tous les domaines, mais elles sont particulièrement dramatiques dans le domaine de la santé. Par exemple, les pénuries de médicaments sont de plus en plus courantes, cela alors même que l'industrie a largement les capacités de satisfaire l'ensemble des besoins. Ainsi, en 2017, en France, 530 médicaments se sont retrouvés en rupture d'approvisionnement. Ces pénuries ont différentes causes. Parmi elles, la politique du flux tendu, du zéro stock, appliquée dans la plupart des usines sous prétexte que qu'immobiliser des stocks reviendrait cher. Mais il y a aussi l'organisation, je devrais plutôt dire la désorganisation mondiale de la production. Il peut arriver en effet que seules quelques usines, voire une seule dans le monde, fabrique un principe actif indispensable à plusieurs spécialités ou un excipient utilisé dans des centaines de produits. Des malades peuvent être privés d'un médicament essentiel parce qu'une usine, à l'autre bout du monde, connaît des difficultés. Ce peut être une chaîne de production arrêtée, de mauvais contrôle qualité, la mise à l'arrêt d'une usine en Chine à cause d'un pic de pollution atmosphérique. Ou plus prosaïquement, un patron qui arrête de produire une molécule ancienne et ne rapportant pas assez. Et je ne parle pas là d'un patron chinois. La plupart des ruptures de stock concernent en effet des médicaments anciens ou des vaccins très classiques et bon marché. Ainsi, depuis quelques mois, 45 000 malades du Parkinson, traités par un vieux médicament peu onéreux, le Sinemet, ne peuvent plus obtenir leur traitement. D'après les dires du laboratoire Merck, qui commercialise ce produit, le sous-traitant américain fabriquant le principe actif aurait des problèmes pour remettre aux normes sa chaîne de production. Et les difficultés devraient au moins durer jusqu'en mars prochain. Les malades, traités depuis des années, se voient donc obligés aujourd'hui de modifier leur traitement avec tous les risques que cela comporte. Pourtant, un minimum d'anticipation et de planification aurait été possible. On connaît exactement le nombre de malades utilisant ce traitement. On sait exactement combien de doses il faut produire pour répondre à la demande mondiale. Les problèmes d'approvisionnement auraient pu être résolus en exigeant de Merck ou d'un autre laboratoire qu'il s'engage à produire les quantités adéquates. Mais à ce niveau-là, bien sûr, l'État se garde bien d'intervenir. Pour éviter les pénuries, pour organiser la production de médicaments et de vaccins qui ont souvent une durée de péremption courte, pour évaluer les stocks, pour répondre aux besoins des malades, la nécessité d'une planification saute aux yeux. Mais dans cette économie de la concurrence, même ce minimum de planification paraît impossible car il se heurte à la sacro-sainte liberté d'entreprendre. La devise des capitalistes, c'est « après moi le déluge ». Ils ne se sentent responsables de rien, ni des conditions de travail des salariés, et encore moins quand il s'agit de sous-traitants, ni des conséquences environnementales de leur système. Par exemple, on sait qu'une partie des perturbateurs endocriniens présents dans l'environnement a pour origine les médicaments, et en particulier les hormones des pilules contraceptives. Les femmes sous pilule excrètent dans leur urine des hormones qui passent dans l'eau des rivières où elles perturbent le développement embryonnaire de certains poissons. Ensuite, faute de stations d'épuration suffisamment performantes, on retrouve ces produits dans l'eau du robinet. Et c'est la même chose pour la plupart des médicaments qui se retrouvent dans l'eau, soit tels quels, soit le plus souvent après avoir été dégradés par notre organisme, c'est ce qu'on appelle des métabolites. L'industrie pharmaceutique s'en désintéresse complètement. Aucune étude n'a été réalisée pour évaluer les conséquences à long terme sur l'environnement et sur la santé humaine de l'exposition à ces doses minimes, mais sur de très longues durées. Les industriels ne se sentent pas plus concernés par des pollutions encore plus directes et encore plus visibles. L'été dernier, l'usine de Sanofi à Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, a dû fermer précipitamment. Une inspection avait révélé des dépassements astronomiques de rejets de polluants, dont un, le bromopropane, était classé par l'Organisation mondiale de la santé comme cancérogène, mutagène et susceptible d'altérer la fécondité. Les quantités rejetées étaient plus de 100 000 fois la norme autorisée. Deux cheminées sur trois du site n'avaient jamais fait l'objet d'aucun contrôle pourtant obligatoire. En outre, de la dépakine, un médicament antiépileptique produit sur le site, s'échappait de façon anormale d'une installation vieillie et mal entretenue. Après avoir affirmé que les riverains n'étaient pas exposés à ces rejets toxiques, Sanofi a rétro-pédalé et a arrêté l'usine pour travaux de maintenance. Puis elle a redémarré la production pendant quelques semaines, avant un nouvel arrêt, puis une nouvelle reprise depuis novembre dernier. Depuis, il paraît que tout va bien. C'est le préfet qui l'a dit. On comprend que les riverains et les salariés aient du mal à faire confiance. Et encore, on peut se dire qu'ici, il existe des règles, certes contournées, mais quand même des règles, ce qui n'est pas le cas dans bien des régions du monde. Un reportage du journal Le Monde décrivait en décembre dernier la pollution aux antibiotiques autour d'une ville du sud de l'Inde, Hyderabad, c'est son nom, où se sont installées des dizaines d'entreprises de production de médicaments. On y retrouve toutes les grandes firmes, les Merck, Sanofi, Pfizer, Novartis, les génériques, leurs filiales. Les concentrations en antibiotiques, mesurées dans les rivières, les lacs ou les puits de la région, sont de 100 000 à 1 million de fois supérieures de ce qui peut être mesuré dans les eaux usées européennes. Et comme dans les eaux stagnantes, les mares et l'eau qui sert à l'irrigation, sont un lieu de prédiction, d'élection pour la multiplication des bactéries, celles-ci, au contact des nombreux antibiotiques, deviennent elles-mêmes résistantes. Hein, et tant pis pour les conséquences à long terme. Alors évidemment, le but des industriels de la pharmacie n'est pas de nous empoisonner. Un médicament qui guérit, qui est efficace, c'est beaucoup mieux pour tout le monde, y compris pour leurs profits. Mais justement, ce sont leurs profits avant tout. Et cela ne peut qu'aboutir à des situations où le système dérape et où un nouveau scandale sanitaire éclate. Il me serait impossible de vous donner la liste de toutes les affaires qui ont éclaboussé l'industrie pharmaceutique. Je vais tout de même citer l'affaire du Distilben, un médicament prescrit dans les années 70 à des femmes enceintes et qui a été responsable de malformations génitales transmises parfois sur plusieurs générations. Il y a eu l'affaire du sang contaminé en 1985, le scandale du Mediator en 2009, celui de la dépakine en 2016, les effets nocifs de ce médicament sur le développement neurologique du fœtus étaient connus depuis 1986, mais il a fallu attendre 2006, 20 ans, pour que les risques soient clairement notifiés. Je pourrais aussi parler du Levothyrox, dont la formule a été soudainement changée par le fabricant, ou encore des overdoses aux opiacés prescrits à des millions de patients américains à grand renfort de publicité et en minimisant les doses d'accoutumance. Et tout récemment, il y a eu le scandale des dispositifs médicaux implantables qui, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des médicaments, ne sont pas contrôlés par les agences officielles, mais par des organismes certificateurs choisis par le fabricant lui-même. Et la liste est loin d'être exhaustive. Je vais revenir sur le scandale du Mediator, parce qu'il est particulièrement révélateur des complicités nouées à tous les niveaux par un laboratoire, le laboratoire Servier, certes de second ordre au plan mondial, mais bien implanté en France et disposant de sérieux appuis politiques. Au départ, en 1976, le Mediator avait été mis sur le marché comme antidiabétique. Avec le temps, il s'est révélé être un piètre antidiabétique, mais un coupe-faim très efficace. Il a donc été prescrit, un peu à des diabétiques, mais beaucoup à des personnes voulant perdre du poids, un marché beaucoup plus vaste. En 1997, un autre produit de Servier, de la même famille chimique que le Mediator, la famille des amphétamines, a été retiré du marché pour ses graves effets sur le cœur. Mais pas le Mediator, qui a pris le relais du médicament interdit, et ce, pendant 12 ans. Pendant tout ce temps, des médecins ont mis en garde contre l'utilisation du Mediator, averti de l'éventualité d'effets secondaires graves, demandé des compléments d'études. Rien n'y a fait. Le Mediator a continué à être fabriqué, à être prescrit et à être vendu. On estime qu'il a été responsable en France de près de 2000 décès. Dans le film « La fille de Brest », qui raconte le combat de la pneumologue Irène Frachon, on voit quelle détermination lui a été nécessaire pour résister aux pressions de Servier et à ses menaces. Chapeau bas, elle a tenu bon et enfin en 2009, le Mediator a été interdit. Dans cette affaire du Mediator, les responsabilités des politiques sont évidentes. Les ministres de la Santé, qu'ils soient socialistes comme Aubry ou Kouchner, ou de droite comme Bachelot et Bertrand, tous ont laissé faire. Ils se sont aplatis devant Servier et l'ont soutenu. C'est que Jacques Servier était un des fleurons du capitalisme français. Il était un habitué des salons gouvernementaux. Et il a été décoré par Mitterrand en 1985, par Strauss-Kahn en 1992, par Chirac en 2002 et par Sarkozy en 2009. Ça s'est arrêté après. Il est mort. À chaque nouveau scandale sanitaire, les journalistes puis les autorités déclarent « plus jamais ça ». Et ils mettent en évidence parfois de pures malversations, souvent des actes de corruption et toujours des failles dans la surveillance par les organismes de contrôle. Il s'ensuit alors soit une nouvelle loi, soit le toilettage d'une ancienne, soit la mise en place d'un nouvel organisme de contrôle ou d'une nouvelle commission. C'est ainsi qu'en 1978, après le scandale du Distilbène, a été mise en place la direction de la pharmacie et du médicament, placée sous contrôle direct du ministère de la Santé. En 1993, suite à l'affaire du sang contaminé, a été créée l'Agence du médicament. En 1999, après la crise de la vache folle, elle a été remplacée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, AFSAPS. Puis, en 2012, après l'affaire du Mediator, elle est devenue l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM. Quel sera le nom de la prochaine agence ? Les paris sont ouverts. En réalité, il est bien difficile pour ces organismes, quel que soit leur nom, d'exercer un réel contrôle et d'empêcher les industriels à la recherche d'un profit rapide de prendre des risques avec notre santé. L'ANSM dispose de moins de 1000 salariés qui ont bien d'autres missions que le contrôle des médicaments. Et le plus souvent, ce sont des experts extérieurs qui sont mandatés pour réaliser les évaluations médicamenteuses. Alors exiger, comme le font certains, que les experts n'aient aucun lien avec l'industrie pharmaceutique n'a pas de sens. C'est aujourd'hui impossible. En effet, les experts sont choisis, et heureusement, parmi les médecins spécialistes les plus compétents dans leur domaine thérapeutique et dans leur spécialité. Or, les plus compétents sont justement ceux qui travaillent avec et dans les laboratoires de l'industrie pharmaceutique, ces laboratoires qui mettent au point les nouveaux médicaments et les nouveaux protocoles thérapeutiques. Et il n'y a donc pas à s'étonner si, au bout du compte, le contrôleur et les contrôlés sont les mêmes personnes. Et sans même parler de corruption directe, c'est tout le système qui est biaisé par des intérêts financiers. Avant de conclure, il faut d'abord insister sur le fait que la fabrication des médicaments, des vaccins, des produits de santé a représenté et représente toujours un progrès fantastique. En France, l'espérance de vie a doublé depuis 120 ans, passant grosso modo de 40 ans en 1900 à 80 ans aujourd'hui. Le taux de mortalité infantile, c'est-à-dire le nombre d'enfants n'atteignant pas l'âge de 1 an, est passé de 15% en 1900 à 5% en 1950 et à 0,35% aujourd'hui. L'hygiène, l'accès à l'eau potable et à des aliments de bonne qualité sanitaire ont joué bien sûr un grand rôle dans cette amélioration. Mais la baisse de la mortalité infantile a surtout eu pour origine la généralisation de programmes de vaccination et l'utilisation d'antibiotiques. Et si l'on peut vivre aujourd'hui jusqu'à 80, 90 ans, voire 100 ans, cela évidemment à condition de ne pas être pauvre, usé par le travail ou les conditions de vie difficiles, eh bien c'est en grande partie grâce au progrès des traitements médicaux et chirurgicaux. Pourtant, depuis ces dernières années, une partie de l'opinion publique, écœurée, choquée par les scandales à répétition et par la complaisance ou la complicité des autorités sanitaires, en arrive à remettre en cause l'utilité de certains médicaments, et tout particulièrement des vaccins. Et ce n'est pas le moindre des dégâts du capitalisme que d'engendrer ainsi des idées profondément réactionnaires au plein sens du terme, c'est-à-dire au sens de retour vers le passé. Et même quand elles se présentent comme une critique vis-à-vis du capitalisme, ces idées ne sont pas les nôtres. Remarquons que tous les médicaments fabriqués par l'industrie ne sont pas logés à la même enseigne. Par exemple, il est rare d'entendre des critiques à propos des chimiothérapies anticancéreuses, qui pourtant entraînent des effets secondaires particulièrement lourds et pénibles. Mais l'utilité de ces traitements et le prix à payer pour une éventuelle guérison sont majoritairement admis. En revanche, les accusations à l'encontre des vaccins sont plus fréquentes. C'est probablement en partie parce que dans nos pays riches, on a oublié la mortalité liée aux maladies infectieuses. On ne se souvient pas de ce qu'était une société sans vaccins et sans antibiotiques, quand les enfants mouraient en bas âge et quand pour les femmes, chaque grossesse et chaque accouchement pouvaient être mortels. Mais si on ne s'en souvient pas, c'est justement parce que la vaccination a fait que ces maladies ne sont plus visibles. Avant la généralisation du vaccin contre le tétanos, cette infection était responsable de 1000 morts par an en France. Quand le vaccin contre la diphtérie n'existait pas, cette maladie touchait chaque année 40 000 enfants, dont une bonne partie mourait. On sait que si on arrête les vaccinations, les microbes, qui eux n'ont pas cessé de circuler, causeront à nouveau des maladies mortelles. Alors bien évidemment que les laboratoires pharmaceutiques s'enrichissent en produisant de nouveaux vaccins et de nouveaux médicaments dont l'intérêt peut parfois être contesté. Dans notre société, toutes les marchandises, qu'elles soient utiles ou pas, et pour la plupart bien moins utiles que les médicaments, enrichissent les capitalistes. Certains disent qu'il faudrait que les médicaments ne soient plus de simples marchandises, mais cela, justement, c'est impossible dans cette société. La plupart de ceux qui critiquent l'industrie pharmaceutique ne vont pas jusqu'à remettre en cause le système capitaliste. Les critiques émanent souvent d'une fraction de la petite bourgeoisie qui en appelle à davantage de transparence, de traçabilité, de respect pour la santé, tout comme pour l'alimentation, la pollution, le climat. mais elle reste socialement dans le cadre étroit de ses propres préoccupations et prisonnière de son respect de la propriété privée. Sa perspective se limite à rêver d'un capitalisme meilleur, plus soucieux des hommes et de la nature, à engommer les excès. Elle compte sur les pouvoirs publics pour intervenir et limiter les abus. Et elle se lamente du fait que l'intérêt des multinationales passe avant l'intérêt général. Comme si ce n'était pas la règle et le fonctionnement normal d'une économie capitaliste dans laquelle les États sont au service de la classe bourgeoise. Tant que le capitalisme existera, tant que l'économie sera basée sur la propriété privée des moyens de production et sur la concurrence, tant que la santé sera un marché et les médicaments des marchandises, il est illusoire d'espérer que la santé soit un droit pour tous. Le fonctionnement de l'industrie pharmaceutique, indépendamment des scandales qui la secouent périodiquement, est d'autant plus révoltant qu'on touche ici à la santé, c'est-à-dire finalement à la vie. L'industrie du médicament est peut-être l'exemple le plus frappant de ce que le capitalisme coûte à l'humanité et du frein qu'il oppose au progrès. On laisse mourir, en toute connaissance de cause, des dizaines de millions d'êtres humains, faute d'un accès aux médicaments qui leur permettrait de vivre. Pourtant, dès à présent, on pourrait répondre aux besoins en traitement de l'ensemble de l'humanité. On pourrait prévoir et organiser la production et l'acheminement des médicaments et vaccins nécessaires. Les usines, les moyens de fabrication et de transport existent. Mais cela ne suffit pas. Dans ce mode de production capitaliste, il ne suffit pas d'avoir besoin, il faut pouvoir acheter. Il ne suffit pas de dénoncer le capitalisme, il faudra le détruire. Il faudra abolir la propriété privée. Il faudra mettre à bas le secret commercial. Il faudra faire cesser la concurrence. Comme le font aujourd'hui les équipes de recherche fondamentale du secteur public, il faudra mettre en commun toutes les connaissances, rendre publics tous les processus de fabrication, les comparer, partager chaque progrès, chaque découverte, chaque avancée, au lieu de les cacher, de les opposer. Il faudra produire en fonction des besoins, en fonction des nécessités de prévention et de traitement de toute la population humaine. Alors seulement, chaque être humain aura la possibilité de bénéficier de ce que la science et de la médecine produisent de meilleur. Que seront ensuite la médecine et la science dans une société communiste ? Eh bien, elles seront bien différentes, en tout cas. La science ne s'est pas développée entre les quatre murs d'un laboratoire ou d'un hall de conférence, disait Trotsky devant les chimistes en 1925. Elle a été dépendante de la société humaine qui y a reflété sa structure, ajoutait-il. À l'époque où elle était révolutionnaire, la bourgeoisie a été capable non seulement de bouleverser les modes de production, mais aussi de révolutionner la pensée et d'acquérir des modes de raisonnement impensables dans les sociétés antiques ou féodales. Alors soyons persuadés que dans une société communiste, libérée de tous les obstacles engendrés par la propriété privée et la concurrence, les possibilités gigantesques de la pensée humaine ouvriront à l'humanité des champs de connaissances insoupçonnés et permettront des progrès inimaginables.